RFI, Radio France Internationale, 9h30, à Paris, 2h de moins, en temps universel. Et à la une de votre journal, Vincent Dublanche, cette date, le 6 octobre 2024.
Oui, celle à laquelle le président tunisien remet son mandat en jeu. On connaît la date depuis hier. Pas de grand suspense. Kais Saied fait évidemment partie des 16 prétendants. Au Mali, un an de prison ferme requis contre Boubacar Traoré. Il est l'un des proches collaborateurs du Premier ministre Choguel Maïga. Il avait signé un texte critique des militaires au pouvoir. Une enquête préliminaire contre le président du Tchad en France. Soupçon d'achat de luxueux costumes avec de l'argent public. Ce que Mahamat Idriss Déby réfute. Nous sommes à Brazzaville pour le sommet sur le reboisement qui se tient depuis hier. Le journal des sports dans 10 minutes. Les derniers tournois de qualification olympique en basket, Côte d'Ivoire et Cameroun sur les parquets. En Tunisie, l'élection présidentielle se tiendra donc le 6 octobre. Le chef de l'État a annoncé la date hier soir dans un bref communiqué. L'incertitude planait sur la tenue même de ce scrutin, un scrutin qui arrive 5 ans après l'élection de Kais Saied. Sauf que depuis, celui-ci s'est arrogé les pleins pouvoirs en 2021. Il a fait voter une nouvelle constitution en 2022. Alors, dans quelles conditions ce scrutin, dont on connaît la date, peut-il et va-t-il se tenir? Quelques éléments de réponse avec Mathieu Galtier.
Ils sont pour le moment 16 candidats sur la ligne de départ, mais le président Kais Saied part avec une bonne longueur d'avance. Ses partisans mettent en avant la popularité du chef de l'État, élu en 2019, sous le slogan « Ce que le peuple veut ». Les opposants de Kais Saied reconnaissent leur retard, mais pour d'autres raisons. Depuis janvier 2023, une vingtaine de figures politiques de premier plan dorment en prison, accusées de complot contre la sûreté de l'État, de corruption ou de blanchiment d'argent. Rached Ranouchi, l'ancien président de l'Assemblée législative et chef du parti islamiste Ennahda, a déjà été condamné à plus de 4 ans de prison. Habir Moussi, la chef de file du parti Destouriens Libres, qui rassemble des nostalgiques de l'ancien régime de Ben Ali, est incarcéré depuis l'automne dernier. Lotfi Mraihi est le dernier en date. Lundi, le président de l'Union populaire républicaine a été arrêté pour des soupçons de blanchiment d'argent. Kais Saied doit prochainement faire publier la loi électorale qui donnera les critères d'éligibilité des candidats. Mathieu Galtier, Tunis, RFI.
En Mauritanie, au lendemain de l'officialisation par la commission électorale de la victoire de Mohamed Ould Razoani à la présidentielle de samedi, 3 personnes sont mortes après des émeutes dans le sud du pays. Les forces de l'ordre ont procédé à des arrestations. Le ministère mauritanien de l'Intérieur annonce que 2 des personnes décédées sont décédées en garde à vue. Une 3e personne est décédée plus tard à l'hôpital. Le ministère ne fournit aucune autre précision. Au Mali, Boubacar Karamoko Traoré a comparu lundi devant la justice. Ce proche collaborateur du Premier ministre de transition est poursuivi notamment pour atteinte au crédit de l'État. Il est chargé de mission à la primature. Il préside également la frange du mouvement politique M5-RFP qui restait fidèle à Choguel Maïga. Boubacar Traoré avait été arrêté le 27 mai. Il avait diffusé un texte très critique sur les militaires qui dirigent le Mali. Lors de l'audience lundi, il n'a pas été fixé sur son sort. Mais le parquet, lui, a donné son avis, David Baché.
1 an de prison ferme et 6 mois avec sursis. Tel est le réquisitoire du parquet contre Boubacar Karamoko Traoré. Le délibéré sera rendu lundi prochain. Boubacar Karamoko Traoré est poursuivi pour atteinte au crédit de l'État, outrage à magistrat et diffusion de propos mensongers de nature à perturber la paix publique. Ces chefs d'accusation ne sont nullement établis, estime l'avocat de la défense, Maître Koto Traoré. Selon lui, le mémorandum publié en mai dernier par son client n'est pas un pamphlet contre les autorités militaires, mais un recueil d'idées signé pour le compte de son mouvement. C'est un bilan de ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché, avance Maître Traoré. Le mois dernier, le Premier ministre de transition, Choguel Maïga, avait personnellement défendu son collaborateur en déclarant « Personne ne peut dire qu'il y a un point là-dedans qui est faux ». Cette procédure a-t-elle pour objectif d'affaiblir Choguel Maïga? Je ne le pense pas, estime encore Maître Traoré, qui demande la relaxe pure et simple de son client. En avril dernier, Abdelkader Maïga, autre membre du M5-RFP proche du Premier ministre de transition, a été condamné à 2 ans de prison, dont un ferme, après avoir déjà dénoncé des désaccords entre la primature et les militaires au pouvoir.
Toujours au Mali, le mouvement pour le salut de l'Azawad, le MSA, annonce l'assassinat d'Ismaïl Ag Aramat, l'un de ses chefs politiques et militaires à Gao. Il a été tué dans la soirée de lundi près de son domicile. Le MSA, c'est un des groupes armés alliés de l'armée malienne. Ismaïl Ag Aramat avait pris part à plusieurs opérations contre les djihadistes de l'État islamique au Sahel, et notamment celle qui avait conduit à l'élimination de l'un de ses chefs, Abu Huzaïfa, surnommé Igo. Certaines sources évoquent une possible action de représailles de la part de l'État islamique au Sahel. Le mouvement pour le salut de l'Azawad, le MSA, parle, lui, d'agresseurs non identifiés. Il dénonce, je cite, un acte ignoble qui ne fera pas fléchir la détermination du mouvement. C'est une conséquence directe de la nouvelle loi immigration en France. Un jeune Malien de 25 ans vient d'être expulsé. Il y a quelques mois encore, il bénéficiait d'une protection car il est arrivé en France avant l'âge de 13 ans. Moussa Sako est arrivé à 5 ans. Mais la nouvelle loi désormais supprime ses protections. Après 20 ans en France, Moussa Sako a donc été conduit au Mali, un pays qu'il n'a presque jamais connu. Kaoru Magassar.
L'avion de la compagnie Corsair reliant Paris à Bamako est arrivé dans la capitale malienne avec plus d'une heure de retard. La mobilisation pour faire débarquer Moussa Sako sous le coup d'une procédure d'expulsion n'a pas fonctionné. Jouant au téléphone, un membre de son collectif de soutien est encore sous le choc de ce départ forcé.
On est très touché parce qu'on a beaucoup donné. On est persuadé qu'il aurait dû rester, que tout ça, ça résulte d'une profonde injustice et qu'il y a énormément de vices de procédure. Et en même temps, on est touché par le fait que des personnes se soient mobilisées pour lui. Mais d'un autre côté, là, j'ai du mal à réaliser en vrai. On est révolté profondément et très touché pour lui. Et on espère que ça se passera bien pour lui là-bas.
Selon son avocate qui compte faire appel de la décision du tribunal administratif, Moussa Sako ne connaît pas le Mali. Il est arrivé en France à l'âge de 5 ans. À Bamako, il a donc été accueilli par des membres de l'association malienne des expulsés qui fournit de l'assistance à tout migrant refoulé. Ousmane Diarra est le président de l'organisation.
Nous allons voir de quelle manière avec son collectif de soutien et avec son avocat pour qu'il puisse rentrer dans son droit. On va essayer de faire un plaidoyer auprès des autorités, les personnes compétentes, c'est-à-dire le ministère ou le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. On verra comment il peut aussi nous aider à faire vraiment repartir de monsieur si c'est possible.
En France, les soutiens de Moussa appellent à un rassemblement pour protester contre son expulsion ce mercredi devant la mairie de Montreuil.
Le président tchadien Mahamat Idriss Déby visé par une enquête préliminaire en France sur des soupçons de détournement de fonds publics et de recel. Une source proche du dossier confirme à RFI ses investigations concernant les dépenses vestimentaires de la présidence de la République du Tchad. C'est le journal en ligne Mediapart qui avait révélé l'affaire il y a 6 mois. L'article faisait état de dépenses allégués qui s'élèveraient à plus de 900 000 euros pour l'achat de costumes, de chemises et de vêtements de luxe. Lisa Fabian.
L'enquête préliminaire pour détournement de fonds publics et recel a été ouverte dès le mois de janvier par le parquet national financier. Les investigations viseraient en particulier 2 virements réalisés par Mahamat Idriss Déby en décembre 2021 et en mai 2023 au bénéfice d'un célèbre tailleur parisien. D'un montant total de plus de 915 000 euros, ils auraient permis au président tchadien d'acquérir une garde-robe luxueuse composée entre autres de 57 costumes dont le prix oscille entre 9 000 et 13 000 euros. Dans son autobiographie, Mahamat Idriss Déby est revenu sur cette affaire qu'il considère comme un symbole de la manipulation en politique et qui aurait été montée de toutes pièces par Abakar Manani, ex-conseiller chargé des affaires présidentielles et ministre d'État tombé en disgrâce. Dans son texte, le chef de l'État tchadien dénonce un tapage médiatique absurde et affirme avoir toujours préféré les habits traditionnels aux costumes.
Au Gabon, les autorités viennent de réaliser une grosse opération économique et financière. 10 mois après le début de la transition, le pays vient en effet de nationaliser la société pétrolière Assala Energy en la rachetant au fonds américain Carlyle. C'est le 2e producteur de pétrole dans le pays après le groupe français Perenco. Il y a 1 an, c'est pourtant la société française Morel & Prom qui était favori pour cette acquisition, mais les autorités issues du putsch de fin août dernier ont fait valoir leur droit de préemption. Avec succès donc, succès célébré dignement au palais présidentiel. À Libreville, Yves-Laurent Gomard.
Esplanade de la présidence de la République. Tous les principaux dirigeants de la transition sont présents pour célébrer cette bonne nouvelle. Après avoir reçu les documents du rachat de la compagnie, le président de la transition, Brice Clotaire Oligingema, a pris la parole.
Cette acquisition, dont nous pouvons être fiers, permettra à terme d'augmenter nos recettes, nous permettant ainsi de réaliser nos nombreux projets de développement. C'est sans conteste une forme d'affirmation de notre souveraineté.
Le Gabon a investi 648 milliards de francs CFA, soit environ 1,3 milliard de dollars pour racheter la société pétrolière auprès du fonds américain Carlyle. Les détails du montage financier n'ont pas été communiqués. Bien que satisfait, Sylvain Mayabit, secrétaire général de l'Organisation nationale des employés du pétrole, ONEP, demande qu'une gestion rigoureuse soit appliquée pour ne pas couler l'entreprise.
Il ne faut pas se contenter d'avoir une société pétrolière et de puiser de l'argent pour les investissements du pays. Il faut que les hauts standards de gouvernance soient établis et maintenus.
Depuis son indépendance en 1960, la production pétrolière du Gabon était sous le contrôle des multinationales. Yves-Laurent Goma, Libreville. RFI.
Il est 8h40 à Libreville, comme à Brazzaville, où se tient depuis hier et jusqu'à vendredi une conférence sur le reboisement et l'afforestation, c'est-à-dire l'action de boiser une zone longtemps restée sans arbres. La rencontre s'est donc ouverte hier et se poursuit jusqu'à vendredi. Cette première édition réunit plusieurs dizaines d'experts venus principalement des pays du bassin du Congo. Sur place, Loïcia Martial.
Dans la salle qui abrite cette première conférence internationale, dont les différentes affiches renseignent sur l'importance donnée au sujet, Marc Ona, activiste et secrétaire exécutif de Green Forest, une ONG écologique, revient sur la place et le rôle de cette conférence en cette période où les effets dévastateurs du dérèglement climatique touchent toutes les parties du monde.
Une telle rencontre permet d'abord d'avoir une prise de conscience sur la notion de la forestation et du reboisement. Nous sommes confrontés à un système de déforestation qui atteint des limites insupportables aujourd'hui. Et par conséquent, face à tous ces problèmes et pour parer à tous les dangers que présentent les changements climatiques, il faut absolument prendre des mesures. Des mesures qui consistent à reboiser, à développer des couverts végétaux.
Honoré Tabouna est chef du département environnement à la commission de la CEAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale.
Ce n'est pas toute une histoire, ça rentre dans la dynamique mondiale pour trouver, entre autres, des solutions pour lutter contre les changements climatiques.
Outre les experts, la conférence de Brazzaville qui s'achève le 5 juillet compte aussi donner la parole aux populations autochtones qui voient leur territoire